Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et un bon Tech & Co, c'est forcément un bon débrief de l'actu tech pour débuter. Et pendant une heure en plus. C'est quand même la classe. Cédric Ingrand est avec nous. Salut Cédric.
Salut François.
Ravi de te retrouver, ancien journaliste bien sûr, directeur général de Heavyweight Studio dorénavant. À tes côtés c'est Hugo Weber. Salut Hugo.
Salut François.
Ravi de te retrouver aussi Hugo, directeur des affaires publiques chez notre pépite française Miracle. Tout va bien chez Miracle ?
Parfaitement.
Les indicateurs sont au vert ?
Toujours au vert.
On voit qu'ils ont de l'argent chez Miracle. Et... casquette Miracle, parapluie Miracle. Hugo est venu avec quoi d'autre Miracle ?
Un carnet, c'est tout.
Et peut-être même des trucs cachés, on n'ira pas plus loin. Christophe Honnête, salut Christophe.
Bonsoir François.
Senior Advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft Asie du Sud et France. Voilà, Christophe Honnête que vous connaissez bien, qui vient régulièrement dans Tech & Co pour débriefer l'actu. Plein de sujets passionnants. On va revenir sur ce patient Neuralink qui, il y a encore une semaine, arrivait à jouer aux échecs simplement par la pensée. Maintenant, il joue à Mario Kart, le gars. Quand même, c'est impressionnant. Hein. On a une petite vidéo à vous montrer et puis on débattra là aussi sur les progrès en fait de cette technologie. On évoquera un petit peu aussi le DMA et les GAFAM, vous le savez, avec cette enquête menée par la Commission européenne, notamment du côté d'Apple. Tiens, Apple qui a annoncé aussi sa WWDC. Ce sera le 10 juin prochain. On commentera aussi tout ça tout à l'heure. Et on reviendra, je le disais aussi, sur les 50 ans de la carte à puce. Cette carte à puce que l'on doit à un certain Roland Moreno, qui nous a quittés il y a une douzaine d'années et qui est un génie hein, finalement, parce que ben, voilà, il y a 50 ans, il a inventé cette petite puce qui était intégrée dans des cartes et qui aujourd'hui est partout dans le monde. Hein, il y en a des milliards et des milliards. C'est incroyable, c'est un succès phénoménal. 50 ans cette année. Mais pour débuter, donc, OpenAI qui a présenté une nouvelle vidéo avec de nouveaux effets d'intelligence artificielle générative en termes de vidéo. Parce que c'est vraiment, là, le nouveau dada d'OpenAI, c'est Sora, ça s'appelle comme ça. Imaginez, aujourd'hui, vous tapez, je sais pas quoi, ce que vous voulez sur l'interface de...
François Sorel court sur une plage.
Oui, voilà, François Sorel court sur une plage avec un casque de moto, par exemple.
Par exemple.
Pourquoi pas. Et là, d'un coup, paf, vous avez François Sorel qui court sur la plage avec un casque de moto. Si on peut lui enlever quelques kilos aussi à François Sorel, ça serait pas mal. Merci beaucoup, l'IA. Non, je plaisante. Ce qui veut dire par là que OpenAI avance très très vite sur ce sujet hein, de l'intelligence artificielle générative avec une qualité, c'est ça qui est complètement bluffant, la qualité des images qu'on arrive à avoir. On se casse le nez, hein, Cédric.
C'est bluffant. C'est monstrueux.
Deuxième salle de vidéo.
Ouais. Mais il faut imaginer, il faut se souvenir de ce qu'on a. Il y a un an, on produisait des photos de gens avec 7 doigts, voilà. Oui. Et aujourd'hui, on fait
et des longs
ça.
Doigts en plus.
Oui, enfin, c'était souvent voilà.
C'était pas terrible.
Et aujourd'hui, on fait ça. On fait des choses qui sont de la cinématographie, enfin, qui peuvent servir à plein de gens. Alors, c'est pas pour autant hein, encore des choses vraiment faciles à utiliser. D'ailleurs, de toute façon, c'est pas accessible ni à vous ni à moi.
Non.
Et alors, justement, ils ont mis Sora dans les mains d'une demi-douzaine d'artistes, vidéastes, etc. Justement pour produire ces nouvelles vidéos. Et alors c'est intéressant parce que ça arrive au moment où d'autres disent attendez mais vous êtes en train de faire, enfin vous êtes en train de piller en gros toutes les vidéos qui sont sur Internet pour instruire votre modèle génératif.
Oui, pour nourrir ce modèle.
Oui, parce qu'évidemment. Mais c'est incroyable de voir la précision de ce que ça arrive à sortir. Parce que entre une image et de la vidéo, il y a une grosse différence. C'est pas juste 25 images par seconde. C'est aussi la gestion du mouvement. C'est comprendre le volume des choses. Enfin, on est face à une espèce de vraie course aux armements totale. Et pour l'instant, clairement, ils tiennent tête.
Avec le photoréalisme, hein. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans des jeux vidéo ou en fait des démos vidéo de PlayStation 5. Là, on a l'impression, parfois, et franchement, si vous êtes avec nous en audio, bien sûr, on pourrait vous les décrire pendant des heures, mais l'idée, c'est vraiment aller sur le compte Twitter d'OpenAI et aller voir ces vidéos. Alors, regardez le replay de cette émission. On vous en montre quelques-unes. C'est impressionnant. Là, vous voyez, vous avez un mix entre, je sais pas moi, un oiseau,
une autruche et une girafe.
Une autruche et une girafe. C'est impressionnant. Le petit cochon qui vole, c'est quand même incroyable. Est-ce que ça serait pas finalement, Christophe, l'une des innovations les plus bluffantes d'OpenAI, encore plus forte que ChatGPT?
Ça peut se débattre, mais en tout cas, c'est sûr que c'est très, très, très impressionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée aussi un certain nombre de questions. La question de propriété intellectuelle à laquelle Cédric faisait référence.
On va y revenir dans un instant. On a une petite tisson à vous diffuser là-dessus.
Voilà. Et aussi d'autres questions par rapport à Hollywood. Mais peut-être tu voulais passer cette vidéo maintenant ou
Bah, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous connaissez Mira Murati? C'est la CTO d'OpenAI, n'importe qui, la CTO d'OpenAI. Elle répondait aux questions d'une journaliste du Wall Street Journal il y a quelques jours de ça, je crois que c'était la semaine dernière, et la journaliste lui demande d'où viennent en fait les droits de toutes ces images, où va se nourrir en fait OpenAI pour créer Sora. Écoutez sa réponse.
Quelle data vous utilisez pour entraîner Sora?
Nous utilisons des données accessibles au public et des données sous licence.
Comme des vidéos sur YouTube?
I'm actually not sure. Je suis pas sûre.
Videos from Facebook, Instagram.
You know, if they were public. Vous savez, si elles sont accessibles au public, cela peut devenir des data, mais je suis vraiment pas sûre.
There might be the data, but I'm not sure. Yeah. I'm not confident about it.
Et par rapport à Shutterstock, je crois savoir que vous avez un deal avec eux.
Je ne vais pas rentrer dans les détails des data que nous utilisons, mais ce sont des données accessibles au public et sous licence.
Non, elle ne va pas rentrer dans des détails parce qu'elle ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, on ne rentre pas dans les détails.
Clairement, ce n'est pas son sujet préféré.
Ouais, moment gênant quand même, parce que c'est la CTO d'OpenAI. C'est quand même la CTO.
Ouais,
et la fille, elle sait pas d'où viennent les images qui ont fabriqué toutes ces vidéos, quoi.
Les images qui ont inspiré.
Elles sont nourries.
On parle de copyright, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, le copyright. Moi, je peux aller regarder toutes les œuvres de Picasso et essayer de m'en inspirer pour faire de la peinture. Ça donnera un résultat que, t'as pas envie de voir.
Moi, j'aurais hâte de voir ça, sincèrement.
Évidemment. Et pourtant, les descendants de Picasso pourront pas m'accuser pour m'être inspiré de l'œuvre. Picasso lui-même s'inspirait des grands maîtres. L'inspiration est pas quelque chose qui est couvert par le copyright. C'est la copie qui est couverte par le copyright. On le voit dans tout ce qui tient justement déjà aux images et puis à l'inspiration tirée des textes sur le web, etc. etc. Donc c'est dur de le traiter par l'angle du copyright, mais c'est vrai que elle aurait dû être mieux entraînée à répondre à cette question.
Mais je suis d'accord, mais elle pourrait savoir au moins si c'est YouTube qui leur sert de pompe à inspiration, en quelque sorte. Là, elle ne le sait même pas. Après, tu as raison sur le copyright. Il y a peut-être un pixel d'une vidéo dans...
C'est pas tant un pixel, c'est la capacité du logiciel à comprendre ce que c'est, à comprendre comment marche un chat. C'est aussi ça qui est confondant. C'est-à-dire que, comme toi, moi j'ai fait 30 ans de journalisme.
Si on doit commencer à donner des royalties à tous les chats.
30 ans de journalisme technologique à essayer d'expliquer des choses compliquées aux gens. Et là, j'arrive face à une chose que je n'arrive pas à expliquer. Je peux expliquer ChatGPT. Sora, Midjourney, la génération d'images, c'est quand même très très fort en termes de technique. Là, l'explication derrière, elle est vraiment compliquée.
Hugo ?
Moi, quand je regarde ce qui s'est passé sur ChatGPT, sur les questions de copyright, j'ai aussi beaucoup vu une course aux éditeurs de presse à aller faire des deals avec OpenAI. On l'a vu avec Axel Springer, qui était le premier Allemand à aller faire ce deal-là. On l'a vu avec Le Monde, qui l'a également fait très récemment. Et en fait, la question que ça va poser pour Sora, c'est de savoir quels vont être finalement les éditeurs de films qui vont être les premiers à aller faire des deals. Et je pense que ça va être un peu la suite logique de ce qui va se passer. Parce qu'au final, ce que nous montre Sora dans les petites vidéos qu'on a vues à l'instant, c'est un phénomène qui va être extrêmement compliqué à gérer pour énormément de cols blancs. T'as mis, comme moi, un bleu de travail aujourd'hui. moi, j'ai vraiment peur d'une chose, c'est la vulnérabilité des cols blancs par rapport à cette nouvelle technologie. Et en fait, on se rend compte que sur toutes les professions intellectuelles, des juristes, en passant par les créatifs en agence de publicité, jusqu'aux gens qui font des médias ou de la télé ou des films, il y a une vraie vulnérabilité par rapport à ce sujet-là. Et finalement, est-ce que c'est pas un moyen... en tout cas, ces deals qui pourraient être passés entre des éditeurs de films ou des maisons d'édition avec des fondations de modèles, de trouver des nouvelles moyens de monétiser finalement leur capital qui existait déjà.
C'est compliqué parce que le moteur peut s'inspirer de plein de choses sur la cinématographie, sur comment on cadre, à quoi ça ressemble, c'est quoi un mouvement de caméra, etc. Ils peuvent aussi prendre des précautions pour que, par exemple, on puisse pas refaire un film avec Marilyn, enfin, ou avec une actrice vivante surtout, ce qui serait encore plus problématique. S'ils le font, ils n'auront pas de problème de copyright. Personne va dire tout ça semble inspiré du travail de tel chef opérateur ou de tel metteur en scène. Ça, c'est pas la question.
On l'a déjà vu avec Edith Piaf, on en avait parlé ici, le fait de recréer la voix d'Edith Piaf, de la faire reparler sur des choses qu'elle n'a pas dites. Enfin, ça pose des vraies questions philosophiques sur faire reparler des morts. Enfin, moi, c'est un truc qui profondément m'effraie totalement.
Oui, oui. Sauf si on a l'autorisation, par exemple, de la descendance d'Edith Piaf, par exemple. Ça, c'est... Et là, même si on n'est pas d'accord intellectuellement avec tout ça, bah, ils sont dans les clous, finalement, au niveau de la loi. C'est ça qui est intéressant. Mais ce qu'il y a de fou, c'est que, donc, évidemment, ces vidéos sont impressionnantes. On se dit que, évidemment, Hollywood va s'emparer de tout ça quand ça sera disponible. Parce que, imaginez des effets spéciaux. Parce que là, ce qu'on voit, c'est des effets spéciaux. Hein. On se dit que, bah, voilà, le prochain Harry Potter avec des monstres, bah, il pourrait être fait, au lieu de passer des centaines d'heures dans des chez Industrial Light and Magic, les studios de George Lucas ou je sais pas où, James Cameron, il appuie sur deux boutons, il arrive à voir ça. Sauf que c'est plus compliqué que ça, parce que derrière tout ça, il y a le prompt. Et le prompt, pour avoir un cochon qui vole avec une super lumière qui va être une lumière de matin, avec une ombre qui va être un petit peu dessinée, mais pas trop, avec un aspect, on va dire, enfin voilà, il y a plein de choses. Tout ça, ça se prompte. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était des spécialistes d'effets spéciaux qui allaient devoir prompter tout ça pour avoir un résultat qui soit au top, en fait. Et encore une fois, la clé, c'est le prompt. Christophe.
Peut-être, en tout cas, le prompt est très important. Il peut être décisif dans la capacité à faire quelque chose de remarquable. Mais moi, je crois que ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de voir quelle va être la réaction d'Hollywood, un peu comme avec les éditeurs de presse. La question, c'est un peu le dilemme du prisonnier, c'est-à-dire que face à cette technologie qui peut embarquer et finalement complètement disrupter l'industrie et questionner la pertinence d'un certain nombre de studios, il y a la tentation de dire, bah, je vais être le premier à le faire parce que je vais avoir des économies monstrueuses. Alors les économies, par exemple, sur la réalisation d'effets spéciaux, mais aussi sur la réalisation d'un pilote avant de lancer un film. Le pilote, ça coûte très cher. Là, pour une fraction du coût, on va accepter qu'il y ait un pilote qui soit fait avec de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a Tyler Perry, je crois qu'il s'appelle. Il s'appelle Tyler Perry, qui est un gros producteur, réalisateur, qui avait un projet de développement de studio à Atlanta, un projet de 800 millions de dollars, qui a dit « Ouh, oui, je vais mettre en suspens ».
Bon,
oui.
C'est peut-être bonjour, vous sortez comment sera, les gars.
C'est peut-être une façon de se positionner différent, mais on voit bien que là, les studios vont être face à une attitude. Est-ce que je prends le truc en premier, j'en fais un avantage concurrentiel au risque finalement d'entraîner toute l'industrie, ou est-ce qu'on continue à quelque part à former un pack de résistance à ces outils-là.
D'accord.
Voilà. Ouais, et ça, c'est une vraie. Qui va finir comme un village gaulois quand même dans l'ensemble. Ouais. Hein, c'est un peu la question.
Après les scénaristes, après les acteurs, est-ce que ce seront les créateurs d'effets spéciaux qui pourraient faire grève?
Absolument. Imagine où on sera dans un an ou deux ans. Ouais. En fait, c'est ça le truc.
Ouais, c'est ça.
Il y a déjà des outils. J'ai vu une plateforme qui s'appelle LTX, parce que le problème de ces petits clips, c'est que tu génères ton cochon volant. Ok, super. Et pour le clip suivant, tu dis, bah maintenant, si j'étais en train d'en faire un film, par exemple, ou un spot de pub, j'aimerais bien avoir le même, dans le même décor, le même cochon volant, mais qui vole vers moi, par exemple. Mmh. Et ça, c'est compliqué à prompter. Et il y a une plateforme qui s'appelle LTX qui fait exactement ça. Et surtout qui te permet de revenir sur une scène et de la modifier.
Sur
et
base
de faire
open
ton
AI
montage.
Ou...
Pardon ?
Sur base OpenAI ou...
J'ai pas encore compris la base. C'est pas encore ouvert à tous. Mais surtout qui te permet de faire une modification en disant finalement, le cochon, il faudrait qu'il soit rouge et pas rose et il te le change dans tous tes plans. Enfin, non, c'est terrifiant. Christophe a raison sur une chose. Pour prototyper, c'est extraordinaire.
Oui, bien sûr. Oui.
Pour jeter des idées sur le papier pour des gens qui, comme moi et peut-être comme toi, n'ont aucune,
je te confirme,
capacité artistique. Ouais, ouais. C'est quand même extraordinaire. Tout à coup, tu vas de l'idée à l'image et c'est d'une puissance absolument. Enfin, moi, c'est pas tant la sophistication de la technologie qui me troue, disons-le, c'est la vitesse à laquelle ça accélère.
C'est
ça,
aussi,
on a rarement vu ça.
Alors, pour peut-être clore le débat sur ce sujet avec une note un petit peu plus positive, ça va être un outil formidable de création.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer auparavant, même avec les plus grands effets spéciaux. Mm-hmm. C'est ça qui est dingue. Mm-hmm. Donc vivement que ça arrive. Et on n'a pas de date, hein. Ça devrait être cette année, je pense.
Je crois qu'ils ont dit après les élections américaines.
Alors ils attendent évidemment que l'ouragan...
La prudence.
Je pense que ça montre aussi qu'ils sont conscients des dérives que ça peut amener.
Et puis ils n'ont peut-être pas envie qu'on fasse l'amalgame.
Oui.
Bon. Après, je pense qu'ils ont besoin de booster un peu leurs relations publiques et leur compréhension des affaires publiques. Visiblement, je parle à un spécialiste ici. Parce qu'en fait, OpenAI, c'est une start-up, mais je reconnais des travers de start-up qui parfois lancent des produits qui peuvent avoir un impact économique très fort, un impact sociétal, et qui se retrouvent face à des questions absolument pas préparées, alors qu'elles étaient quand même prévisibles.
Tu te souviens, au moment où Microsoft allait peut-être racheter OpenAI, et où je te disais, non, ils n'ont pas intérêt à le faire. OpenAI a intérêt, même dans le cadre d'un partenariat très lourd, de rester une société à part, parce qu'il y a des choses qu'OpenAI peut faire, mais que Microsoft ne ferait jamais. On ne prendra jamais le risque.
On a fini là-dessus. Bon, en tous les cas, je vous invite à regarder ces vidéos entre le cochon volant et le chat serpent. C'est quand même assez impressionnant tout ça et d'un degré de réalisme qu'on n'a jamais vu. Après, les questions qu'on pourrait se poser, c'est combien de temps faut-il pour générer une vidéo comme ça? Est-ce que c'est instantané? Est-ce que ça prend...
Aujourd'hui, ce sont des vidéos de 1 à 2 minutes qui sont générées.
Oui, c'est une poignée de secondes.
C'est ça. Dans l'actualité aussi, Neuralink, alors on passe maintenant du côté du clan Elon Musk, avec, vous le savez, des progrès phénoménaux qui sont faits avec cet implant, qui est, rappelons-le, inséré dans le cerveau. Là, on n'est pas, sur la boîte crânienne, on est vraiment à l'intérieur. C'est une puce qui elle-même est branchée à des électrodes qui doivent être donc insérées dans le cerveau à des endroits bien précis. Tout ça pourquoi ? Eh bien, si vous êtes avec nous à la télé pour ça, c'est-à-dire que ce patient qui est tétraplégique, qui est devenu une star en fait sur les réseaux sociaux, parce que évidemment c'est le premier, c'est le patient zéro de Neuralink. Finalement, il y a une semaine, on le découvrait officiellement en train de jouer aux échecs. Et là maintenant, eh bien, il joue à Mario Kart. Et il joue à Mario Kart, évidemment, sans manette. Sans les mains, parce qu'il est paralysé, il est vraiment paralysé de la tête aux pieds, et bien il arrive à jouer à Mario Kart simplement grâce à cet implant.
Non, c'est dingue. Là aussi, si on est sur la même courbe d'accélération,
ben on est au tout début.
C'est ça,
le patient zéro.
Presque, oui, tout à fait. Ouais.
Un patient zéro, en tout cas, patient humain, le premier patient humain connu, on va dire. Impressionnant. Christophe.
Moi, je tempère. Je pense qu'il y a une très.
C'est vrai qu'à chaque fois, tu tempères un peu ce sujet-là.
Moi, je suis cohérent. Mais ce que je veux dire, c'est que ils sont très bons en communication. Le fait de mettre un implant qui va pouvoir, avec les ondes du cerveau, commander une puce qui va commander un exosquelette, ça a déjà été démontré.
Je veux dire, fait 15 ans que ça existe.
Une première mondiale, y compris d'ailleurs en France, avec un laboratoire du CEA et du LETI à Grenoble. Donc ces choses-là existent. Donc maintenant, la question, c'est en quoi on va pouvoir finalement passer à l'échelle et surtout... quelles vont être les utilisations vers lesquelles on va orienter ces outils-là. C'est vrai que ce peut être les meilleurs des outils pour effectivement les sujets
Non mais déjà pour tous les tétraplégiques.
Tétraplégiques, voilà.
C'est incroyable.
Bien sûr.
Oui, comme une nouvelle interface pour compenser le handicap.
Mais
c'est super puissant.
Parce que la différence qu'il y a avec peut-être les autres expérimentations qu'on a eues depuis 15 ans, il n'y a jamais eu de production de masse
dans
tout ça. Et on peut imaginer que Elon Musk, lui, ne va pas s'arrêter.
Voilà, passage à l'échelle qui va...
Mais c'est quand même un spécialiste du passage à l'échelle. Alors, Tesla, ça a été un peu compliqué, mais il y est arrivé. SpaceX, il y est arrivé. Et on peut imaginer qu'il a déjà tout son projet d'industrialisation de ces puces-là, si évidemment il a toutes les autorisations. Mais finalement, s'il arrive à redonner de la vie et du plaisir à des personnes aujourd'hui sont totalement enfermées parce qu'ils ne peuvent plus interagir avec leur monde, c'est incroyable. Rien que pour ça...
Il y avait l'exemple aussi d'une femme qui était atteinte de la maladie de Charcot, justement dans d'autres expérimentations que j'ai pu regarder, qui est aussi un drame absolu, et où là, l'outil peut être une façon effectivement de compenser le handicap qui est créé. Donc voilà, que ce soit Neuralink, mais aussi demain, ce que l'AI pourra apporter dans le domaine de la santé, on aura fait un saut quantique dans 10 ans en termes de santé humaine. Après, on met aussi des outils dans les mains de personnes qui peuvent générer des dérives dangereuses.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans le domaine du médical. Le médical, c'est un truc normé. Contrairement, on parlera des réseaux sociaux tout à l'heure, etc.
Il a dû avoir l'autorisation de la FDA pour faire cette opération, cette opération, bien sûr.
Et je pense que c'est vraiment la première fois qu'on voit un protocole de test qui est aussi médiatisé. Tu parlais tout à l'heure de starification de ce patient zéro. On ne starifie pas un patient. Enfin, moi, je trouve ça...
Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, sauf s'il le veut. Et j'ai pas l'impression, quand on voit les vidéos, vous avez regardé les vidéos de ce patient, il a l'air d'être cool, heureux de participer à ce truc-là. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que, en fait, franchement, je suis admiratif de tout ce que fait le CEA, etc. Mais regardons quand même la différence de communication et de marketing derrière tout ça. Le CEA, ça fait des années qu'ils font ces expérimentations. De temps en temps, on a des updates, et puis basta. Là, ce gars-là s'est fait opérer il y a un mois. On a déjà des vidéos qui sont quand même assez impressionnantes. Et on se dit que, voilà, Elon Musk prépare déjà le coup d'après. Alors, je suis pas pro Elon Musk, hein, mais je me dis qu'il y a une autre manière de vendre, en fait, cette technologie. Il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire que pourtant, c'est un sujet hyper sensible. Mais malgré tout, on le voit, c'est ce patient qui, vraiment, avec sa volonté et le plaisir qu'il a à communiquer là-dessus, le fait sur les réseaux sociaux.
Mais c'est une communication qui est complètement maîtrisée de la part des équipes d'Elon Musk.
Bien sûr.
La transparence qu'on veut faire, enfin, on veut faire croire à la transparence, mais elle n'existe pas réellement. Enfin, un protocole médical, vous avez des comités scientifiques, vous avez une communauté scientifique qui vient assesser les progrès d'un médicament.
Là, il y a toujours eu.
J'ai pas l'impression de voir des pairs s'exprimer énormément sur ces sujets-là. Là, c'est vraiment une communication qui est maîtrisée de A à Z. C'est les vidéos qui sont postées sur Neuralink, sur le Twitter de Neuralink. Donc c'est quelque chose qui est très maîtrisé, dont en fait la transparence n'est pas si importante.
Mais qu'est-ce que tu imagines derrière cette non-transparence ou cette transparence? Qu'est-ce que tu crois que en fait, Neuralink pourrait cacher derrière cette vidéo?
J'en sais rien ce qu'ils peuvent cacher derrière, mais on en a déjà discuté. Moi, je suis assez horrifié de voir ce qui peut se passer avec des puces comme Neuralink. Et je pense pas que la visée d'un Elon Musk soit une visée qui soit 100% médicale pour traiter uniquement des patients tétraplégiques. Moi, je vois derrière le transhumanisme qu'il a prêché pendant des années chez PayPal avec son acolyte. Et objectivement, j'aimerais bien voir où est-ce qu'on en sera dans 10 ans, et je serais horrifié de me dire que en fait on a vu ça, qu'on l'avait sous nos yeux et qu'on s'est pas rendu compte de ce qui se passait réellement.
Ouais, mais moi je me mets aussi à la place de toutes les personnes handicapées qui nous écoutent.
C'est vrai.
Et qui rêvent de peut-être d'avoir ce type de d'implant. Même s'il y a des risques, même si évidemment, les statistiques sont pas, même si la communication d'Elon Musk n'est pas forcément bonne, mais
je me dis bien sûr.
Ces gens-là seraient ravis sans doute de pouvoir bénéficier de cette
technologie.
Ce que dit
Hugo, c'est attention, il y a une expérimentation médicale, il y a des protocoles, il y a des règles, il y a des patients de placebo, des tests, enfin il y a tout un ensemble de choses qui fait qu'il y a un encadrement et une méthodologie qui est est-ce qu'il y a une publication dans Nature autour de cela, avec une caution scientifique? Enfin, je veux dire, faut pas qu'on oublie aussi cet environnement de caution scientifique qui est nécessaire à s'assurer qu'on n'est pas dans une entreprise purement de communication. Parce que, enfin, je fais pas de procès d'intention, mais je pense que c'est super. Je dis juste que ça mérite d'être aussi peut-être un peu plus encadré de façon méthodologique.
Ça serait intéressant d'ailleurs de savoir pourquoi on va dire les scientifiques, les chercheurs ne réagissent pas et ne communiquent pas en fait sur ces expérimentations de Neuralink. Est-ce que c'est parce que Elon Musk ne sait pas faire, ne sait pas communiquer auprès de ces gens-là comme il ne savait pas communiquer à l'époque de Tesla envers les constructeurs d'automobiles historiques qui le détestaient? Est-ce qu'il y a aussi ce type de rupture en fait de communication qui...
On est juste dans un schéma de communication qui n'est pas habituel dans le monde médical.
Bien sûr.
Il a raison, Hugo.
Et puis il se sert de sa plateforme qu'il a rachetée pour présenter son innovation.
Ça, c'est un détail. Il le mettrait sur LinkedIn et sur Facebook, tout pareil. C'est ça qui fait aussi que c'est toujours un peu frappant. Donc j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle étape, il y a une vidéo qui sort. Très bien. Mais je suis d'accord avec Christophe. De toute façon, ce truc va passer sous les fourches codines de comités scientifiques, etc. Parce que au final, c'est quand même des objets de santé qui vont être produits. Ça, on ne va pas l'acheter chez Walmart, l'implant Neuralink.
Non.
Voilà. Donc, on ne sait pas encore combien il va coûter, d'ailleurs.
J'espère que ce n'est pas le chef de rayon de Walmart qui va te l'insérer dans le cerveau, parce que...
Oui, qu'il va sortir une
avoir pousse. Une petite formation avant, quand même. Ouais. Je vous le mets tout de suite.
Attention, oui.
Ou vous attendez
avec les AirPods, oui.
Oui, bien sûr.
Mais vous n'avez plus besoin d'AirPods, monsieur.
Mais non, c'est ça qui est beau. On vous les offre, monsieur, aujourd'hui, les AirPods. Non, mais sérieusement, on verra comment tout ça évolue. Et oui, c'est vrai que je me mets aussi beaucoup à la place de toutes ces personnes qui nous écoutent peut-être, qui sont immobilisées sur un...
Bien sûr.
Et qui... Voilà, projette d'énormes espoirs avec cette technologie.
Mmh. Je l'avais dit la dernière fois, mais il faut saluer le courage de ce patient zéro. Oui. Enfin, je pense une des personnes qui est l'une des plus courageuses aujourd'hui sur Terre. Il y a 7 singes sur les 23 qui ont été testés avec Neuralink qui ont survécu. Le courage qu'il faut pour se lancer dans ce protocole-là en tant qu'individu, en sachant qu'il y a ces risques-là derrière, c'est monstrueux. Et je pense que tu as raison de rappeler qu'il y a quand même un individu derrière. Il faut saluer son courage.
C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il a dû peser le pour et le contre et se dire de toute façon, voilà, je sais que je serai tétraplégique tout au long de ma vie à 29 ans. Hein.
Ouais.
Il s'est dit, ben voilà. Je tente le coup, le tout pour le tout, finalement. Et pour l'instant, espérons que ça continue. Il a l'air de se porter à merveille. En tout cas, c'est un sujet, vous avez vu, passionnant. Ouais, et,
Il faut que ce soit encadré.
Voilà. Et évidemment, il faut que ce soit encadré. On verra comment tout ça évolue dans les semaines ou les mois qui viennent. On revient dans un instant. Cédric Ingrand, Christophe Honnête et Hugo Weber sont avec nous ce soir dans Tech & Co, la quotidienne, pour débriefer l'actu.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec Cédric Ingrand qui est avec nous ce soir, mais aussi Hugo Weber à ses côtés et Christophe Holnett. Voilà, on commente l'actualité encore pendant une grosse vingtaine de minutes. Petit détour par le DMA, voilà, qui est un peu le marronnier de Tech & Co, la quotidienne. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire. Puis ce qui est intéressant, c'est que chaque débriefeur a une personnalité particulière qui a un avis particulier sur ce sujet. Donc c'est toujours intéressant d'y passer quelques minutes. Dernier rebondissement en date, messieurs, vous le savez, concernant le DMA, c'est les suspicions de l'Union européenne concernant l'application du DMA par les Apple, Google et autres. Et visiblement, l'Europe n'est pas contente.
Ah oui, il y a débat.
Voilà, les enquêtes de l'UE, parce qu'il y a des enquêtes qui ont été ouvertes, hein, ça a été annoncé hier, portent sur les sujets dont on se doutait un petit peu quand même qu'ils allaient tomber. Hein, Apple, qui devrait autoriser les développeurs à promouvoir des offres en dehors de leurs applications sans commission payante, ce qui n'est pas le cas, rappelons-le. Enfin bref, voilà, Google qui doit faire la même chose aussi. Apple qui doit inciter ses utilisateurs à choisir des applications par défaut différentes des siennes, comme Safari. On revient à la vieille histoire du navigateur que notre ami Christophe Henlett, à l'époque chez Microsoft, a bien connu. Voilà, Meta qui doit proposer aussi à ses utilisateurs un moyen de ne pas être suivi, puisque, rappelons-le, l'alternative que propose Meta, c'est un abonnement payant. Et l'Union européenne dit non, les gars, excusez-moi, mais c'est pas possible, il va falloir trouver autre chose. Amazon, qui a la fâcheuse tendance de promouvoir un peu sur sa boutique ses produits avant les autres. Oh, qu'est-ce que vous voulez ?
C'est humain.
C'est tentant, en tout cas. Je ne sais pas si c'est humain, mais c'est tentant.
Carrefour, les produits de la marque, les produits de distributeurs sont souvent en la gondole. Enfin, ça dépend, c'est compliqué.
Et voilà, c'est compliqué. Oui. Parce qu'il y a Coca-Cola qui ne se laisse pas faire par rapport au cola, Carrefour aussi. Enfin, bref. Donc voilà. Et je trouve que la Commission européenne a plutôt vite réagi sur ce sujet. Faut dire que tout le monde était derrière, hein. Les Spotify qui ont dit attendez les gars, c'est pas possible. Microsoft, mais Epic avec évidemment Fortnite. Epic qui n'attend qu'une chose, c'est d'avoir son application maison pour balancer son jeu Fortnite. Donc bref, ça commence à craquer un petit peu dans tous les sens. Et le DMA a été mis en place il y a 3 semaines.
20 jours.
Ouais, 20 jours. Et ça craque dans tous les sens déjà, Christophe.
Oui, bah, d'abord ça bouge et je trouve que c'est plutôt positif, moi, parce que je trouve que le DMA est une bonne idée, mais qu'effectivement c'est compliqué à mettre en œuvre, parce que de toute façon la réalité aujourd'hui c'est que, et c'est encore plus vrai avec l'IA générative, c'est qu'il y a des oligopoles c'est un oligopole qui se met en place avec des géants qui en fait maîtrisent des infrastructures sur lesquelles des écosystèmes vont se mettre.
Oui,
Amazon,
des marchés,
Google, Microsoft, Apple, c'est ça. Et donc de toute façon pour les acteurs européens, ce que fait faire le DMA, c'est de proposer des règles qui fait qu'on peut se développer dans ces écosystèmes-là avec des règles équitables qui font qu'on n'est pas pénalisé par effectivement des taux d'entrée prohibitifs ou des taux de sortie de la même façon, ou qu'on n'est pas qu'on ne risque pas d'avoir demain un acteur qui bundle de façon gratuite le service que vous offrez. Et donc pour tout ça, c'est pas facile à faire, mais ça fait bouger les choses. Il faut quand même bien voir que on parle aujourd'hui de magasins d'App Store en dehors de l'App Store Apple. C'était un tabou, jamais on n'aurait pu le penser, et que même les Américains avec les DOJ commencent aussi à se dire, bah finalement oui, il faut qu'on mette un peu un certain nombre de règles. Donc moi, je crois qu'ils ont réagir rapidement et qu'il faut réagir rapidement, que c'est pas un jeu de gentleman et qu'il va falloir taper fort,
oui,
menacer fort, hausser le ton, parce que sinon les acteurs, moi je les connais aussi pour l'avoir vécu l'intérieur, ils vont jouer au chat et à la souris, ils vont chercher jusqu'où ne pas aller trop loin, et donc
jouer la montre aussi,
et jouer la montre, parce que là aussi on est dans le ex ante, on est dans l'ex post, on n'est pas dans le ex ante, c'est-à-dire que le mal pour beaucoup est déjà fait. Plus on traîne, plus on impose sa domination. Donc là, je crois qu'ils ont bien fait. Ça reste très compliqué, mais on voit quand même déjà quelques avancées arriver.
C'est vrai, on voit bien que la période de grâce a été de très très courte durée. Enfin, tu vois, mais on voit bien aussi à quel point il y a plusieurs façons d'aborder ça. On voit bien qu'Apple, par exemple, lui est arrivé directement dans le rapport de force en disant moi je vais faire comme ça. Ah c'est pas possible. Bon, alors je vais faire comme ça. Bon bref, pour voir jusqu'où il pouvait aller trop loin. Ce qui est intéressant, et je suis d'accord avec Christophe, l'enjeu c'est pas de leur faire payer une position dominante qui d'ailleurs pour l'essentiel a été acquise à la loyale.
Bien sûr.
C'est de se demander, on est sur un marché où il y a toujours quelque chose qui a pu remplacer ce qui existait avant. Est-ce qu'on est encore dans cette situation-là ? Je veux dire, la montagne a monté pour remplacer un Google, un Amazon, un Meta, un Microsoft ou un Apple. Alors, ça peut aussi aller très vite, parce qu'on l'a vu, on est sur des marchés qui vont très vite. Donc, en fait, c'est un peu comme dans ce qui oppose Apple au DOJ aux États-Unis. Tout l'enjeu, c'est de définir quel est ton marché. Le DOJ aux États-Unis dit le marché d'Apple, c'est les smartphones haut de gamme. Et Apple dit non, le marché, c'est le marché mondial du smartphone, même ceux qui coûtent 20 $. Évidemment. Donc, il va y avoir
une. T'as même pas une coque pour 20 $ chez Apple.
Le seul risque dans lequel l'Europe peut s'enferrer, c'est exactement ce qui s'est passé il y a 25 ans aux États-Unis avec les actions antitrust contre Microsoft, c'est que la procédure a pris tellement de temps que quand elle est arrivée, le monde a changé autrement. Il faut se souvenir, on reprochait à Microsoft d'avoir mis un navigateur Internet dans Windows. On oublie vite quand même. Le jour où quand la procédure est arrivée à son terme, ça n'avait plus aucun sens. Enfin, c'était caduque, quoi.
Enfin, ça a permis malgré tout, grâce à une mise à jour que Microsoft avait faite assez rapidement d'ailleurs, de pouvoir choisir au démarrage de la configuration de Windows son navigateur, ce qui était inédit quand même. Et moi je m'en souviens.
Google de se développer sur Windows alors qu'initialement.
Vieux routard de la tech, on s'en souvient tous.
Ouais, sûr.
Et on avait à l'époque les navigateurs stars, Firefox, je crois que c'était le début de Chrome. Il y avait plein d'autres alternatives.
Il y a un exemple là où ça a marché, un exemple où ça n'a pas marché, c'est la commission avait attaqué Microsoft sur le Media Player.
Oui.
Et en fait, quand la décision a été prise, Media Player était partout.
On était à la grande époque des DRM sur les chansons. Oui. Enfin, c'était un truc.
Mais il faut qu'ils fassent attention quand même, parce que les sanctions vont quand même très très loin. Mm. On dit, en cas de récidive, ça peut être 10% du chiffre d'affaires mondial, voire même 20%. Attention, il faudrait dire quand même à Apple, Microsoft, Meta, Amazon et les autres que Bruno Le Maire cherche de l'argent en ce moment.
Il en cherche beaucoup.
Ouais. Alors, moi justement, j'ai regardé les résultats annuels d'Apple. Et en fait, c'est marrant parce que c'est la première fois qu'ils communiquent sur la part de l'App Store, enfin des revenus de l'App Store en Europe. La part des revenus de l'App Store en Europe, c'est 7%. Vous êtes Apple. Est-ce que vous vous posez la question de vous dire que vous allez prendre 20% d'amende sur votre CA mondial pour 7% de revenus sur une de vos activités qui est peut-être celle qui génère le moins de cash pour vous?
Oui, mais l'immense danger pour Apple, c'est pas que ça se passe ici.
Ça va être très difficile
de dire aux Américains, non, ça c'est impossible. Mais attendez, ça fonctionne en Europe. Ben voilà.
Parce que ça craque aussi aux US, tu le disais tout à l'heure. On va y revenir après.
Quand tu regardes les sanctions qui ont été récemment prononcées contre Apple, il y a eu début mars cette sanction de 1,86 milliard d'euros pour un abus de position dominante sur la distribution de musique via l'App Store. 1,86 milliard, c'est une somme qui est colossale, mais c'est 2% des revenus de l'App Store. Si on le rapporte aux tous les revenus annuels d'Apple, c'est 0,2%.
C'est trois fois le marché de la musique en France, quand même.
Des mêmes chiffres. Et après, ce qui est encore plus important de regarder, je trouve, c'est la réponse qu'a apporté Apple en disant « Ok, vous voulez mettre de nouvelles règles en place ?» Moi, je vais vous proposer une alternative à ces règles-là, et c'est ce qu'ils ont appelé la New Core Fees, de faire payer en fait 0,5 euros par téléchargement d'une application au-delà de 1 million de téléchargements
sur un App Store alternatif.
Sur un App Store alternatif, y compris sur des mises à jour. Quand on regarde toutes les applications qui sont en fait tournées vers le consommateur, tout ce qui est B2C.
Ben on aura moins de mises à jour, hein, ça c'est sûr.
Ça arrive des dizaines par an des mises à jour.
Ouais, c'est clair.
Et en fait, pour moi, je le vois aussi comme une capacité ou en tout cas comme une alternative.
Et ça va pas tenir, on est d'accord.
Enfin, je pense pas que ça va tenir.
Ah bah là, mais en tout cas, c'est une terre brûlée. Là.
Je ne suis pas un expert.
Cédric le disait bien. Enfin, c'est un rapport de force qui s'oppose aujourd'hui. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut encore traiter ces gens-là comme des entreprises ou est-ce qu'il faut les traiter comme des États à part entière ? Vu le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui sur nos vies.
Ils sont pour certains plus riches que certains États.
Et ils sont supranationaux parce qu'ils peuvent définir un certain nombre de règles, ils ont des capacités énormes. Et c'est vrai que je crois que ce qui caractérise Apple, c'est que c'est probablement l'acteur parmi les big tech, c'est celui qui est le plus touché par ça, parce que la philosophie d'Apple, c'est vous êtes dans l'environnement Apple. Le nombre de personnes qui disaient, je suis Apple du sol au plafond, je fais que du Apple, et c'était vraiment l'ADN, y compris d'ailleurs un argument. En utilisant l'argument de la sécurité, du respect de la vie privée, en disant voilà, vous êtes dans l'environnement Apple, vous êtes très bien, vous ne bougez pas. Alors que les autres, que ce soit Google avec Android ou Microsoft, ils ont des stratégies beaucoup plus d'écosystème en faisant venir d'autres acteurs. Donc ils sont, ça se voit un peu moins. Et donc effectivement, là, tout est focalisé sur Apple, qui a des enjeux énormes, parce qu'en plus, ce n'est pas l'acteur qui est le plus en forme en ce moment. Il a absolument besoin de trouver une alternative aux iPhones. Alors peut-être que l'App Store représente une part faible, mais pour eux, tous les revenus de service, c'est quand même très important, donc ils sont très regardés. Et l'autre chose que je note en clin d'œil, c'est que Microsoft n'est pas concerné. Non. Alors là, c'est très fort. Ça veut dire qu'ils ont bien appris les leçons, et ils ont dû faire, alors en termes d'affaires publiques, ce qu'il fallait, parce que la réalité quand même, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait dire, mais pourquoi on ne propose pas une alternative à Teams qui a été rajoutée et qui annihiler tous les espoirs des gens qui avaient pu développer un système de vidéoconférence.
Et qui est intégré à Outlook.
Absolument. Et donné à la mine gratuitement. Donc, et d'ailleurs, on pourrait qualifier ça de pratique prédatrice.
C'était Zoom qui avait gueulé, d'ailleurs. Bah, il y avait le Zoom qui était monté au créneau en disant, mais attendez, mais faites en sorte
ils sont moins B2C, etc. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question.
Oui, c'est clair. C'est clair. Juste pour terminer avec ce sujet, on s'éloigne un peu du DMA. On revient aux États-Unis. Focus sur Apple. Ça craque aussi pour Apple aux US, avec donc ce procès qui est intenté par le gouvernement au sujet de pas mal de thèmes importants, hein, l'Apple Watch, l'App Store, etc., etc. Est-ce que vous pensez que, tu le disais tout à l'heure, Apple a mangé son pain blanc, est-ce que cette période-là, elle est terminée, mais bien au-delà de l'Europe, et que finalement tout ce qui est en train de mettre en place la régulation européenne risque d'arriver d'un jour à l'autre aux États-Unis aussi?
C'était plus facile pour Apple à l'époque où on disait l'iPhone c'est X% des ventes, par exemple. Je te dis une bêtise selon les pays.
Ouais.
Aux États-Unis c'est terrible, hein, parce que c'est 50, 70, 80, etc.
Je crois que c'est 75%.
Oui, c'est ça, voilà.
C'est monstrueux.
Mais au niveau mondial, c'était plus facile de dire bon, ils ont 20% des ventes, ok, ils ont l'essentiel des profits, mais c'est difficile de les traiter de monopole. Là, sur le marché américain, non seulement il y a une position dominante qui est absolument indiscutable, mais il y a justement ce qui va derrière, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en place pour garder cette position dominante. Les emails qui sortent dans le cadre de la procédure au DOJ sont formidables. C'est-à-dire que vous avez des vice-présidents d'Apple qui, dans des mails, disent « Non mais regardez, c'est quand même terrible. Imaginez si on mettait... » La question se posait à un moment de mettre iMessage sur Android. Elle s'est posée, hein, c'est revenu plusieurs fois dans la conversation. Il y avait des pour, il y avait des contre. Il y en a un qui disait « Mais vous rendez compte, ça veut dire qu'avec un pauvre téléphone Android à $25, vous auriez accès à une plateforme cloud tout à fait aussi puissante qu'avec les iPhones qu'on vend beaucoup plus cher. Évidemment, tout ça n'est pas très désirable. Alors, on peut comprendre qu'un VP d'Apple s'exprime comme ça, mais ça pose quand même
des problèmes
en termes de concurrence.
Autre exemple intéressant, c'est l'Apple Watch. Après, je te donne la parole, Hugo. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire-là, parce que Apple a essayé de développer pendant des années, avec des téléphones Android, la possibilité de connecter une Apple Watch sur un univers Android, ce qui n'est pas possible, bien sûr. Une Apple Watch, ça ne marche que sur un produit iOS, et en l'occurrence un iPhone. Les ingénieurs avancés sur ce sujet-là, sauf qu'au bout d'un moment, il y en a un qui a dit « Attendez les gars, mais vous êtes fous quoi ? On va pas vendre notre Apple Watch ?» à des utilisateurs Android, on va casser notre marché, quoi. Et puis ils ont arrêté le développement de cette passerelle qui était possible techniquement. Alors elle était compliquée, hein, visiblement, et ça coûtait beaucoup d'argent, mais c'était possible Mais ils ont arrêté parce qu'ils avaient peur de perdre des utilisateurs d'iPhone qui auraient pu passer sur Android avec une Apple Watch.
Alors, après, je ne sais pas si d'un point de vue droit de la concurrence, on peut leur imposer de faire une Apple Watch pour Android. On pourrait imposer que ce qui ne marche pas bien, c'est que des montres connectées se connectent à l'iPhone. Moi, j'ai fait une petite analyse des montres connectées et j'en ai conclu que j'allais prendre l'Apple Watch que j'avais un iPhone parce qu'il n'y a rien qui marche aussi bien intégré. Donc ça, je l'aurais plutôt vu dans l'autre sens, personnellement.
Oui, parce que l'Apple Watch avait accès dans l'iPhone à des fonctions auxquelles les autres montres connectées
n'avaient pas
accès.
Et là, on est vraiment au cœur du sujet.
Hein. C'est absolument le cœur du sujet. Tout comme le paiement sans contact sur iPhone qui était jusque-là réservé, évidemment, aux fonctions intrinsèques du système iOS, ce qui, pour tous les gens du secteur bancaire, des paiements, toutes les apps, etc., là, pour le coup, on pourrait vraiment arguer qu'il y a un coût porté à l'innovation. Parce que toutes ces startups qui se sont développées pour simplifier les paiements directs entre utilisateurs, etc., je pense que c'est des arguments qu'ils peuvent porter.
Hugo, pour reprendre ton expression, François, tout à l'heure, est-ce que ça craque aux États-Unis aussi ? Honnêtement, j'en suis pas sûr. Quand on regarde ce qui se passe à l'antitrust américain, c'est la FTC, la Federal Trade Commission. La personne qui a été nommée à la tête de cette administration par Joe Biden, c'est Lisa Khan. Lisa Khan, elle a fait sa thèse de doctorat ou de master, je ne sais plus ce qu'elle a fait à Harvard ou MIT, sur justement ces sujets de concurrence dans l'innovation et d'antitreuse dans l'innovation.
Oui, avec comme bête noire Google, Apple, etc.
Amazon aussi.
Et son mandat, il était très clair. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?
C'est compliqué, c'est long. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que c'est quand même des procédures qui sont longues.
Politiquement, enfin, aux États-Unis, il y a quand même un spoil system où les directeurs d'administration centrale changent à chaque gouvernement.
Le
jeu politique.
Mais Hugo, tu as tout à fait raison, mais il y a aussi cette mauvaise communication qui commence à monter finalement. C'est-à-dire que des choses qui étaient plus ou moins cachées et qu'on évoquait peu ou pas, en tout cas le grand public n'évoquait pas, on commence à avoir maintenant ce type d'informations qui arrivent dans les journaux américains, des choses comme ça. Et je pense que pour rappel, c'est un, c'est pas un bon signal, et deux, ça peut-être aller plus loin.
Et je reprends mon bleu de travail, mais on a aussi vu quelque chose d'assez intéressant, c'est la création de syndicats dans le secteur de la tech, de gens qui sont assez précarisés, notamment des sous-contractants d'Amazon, qui en fait commencent à lancer des class action face à Amazon. Et je pense que justement, le traitement de ces sujets antitrust, il devient politique à partir du moment où les électeurs vont se poser la question des dérives qui sont engendrées par ces entreprises.
Bon, en tout cas, sujet passionnant, tout ça. On reparlera de santé d'Apple le 18 avril prochain, car je recevrai sur le plateau de Tech & Co. Sambul Desai. Je ne sais pas si vous connaissez cette dame.
Nope.
C'est la VP Monde Santé d'Apple qui sera à cette occasion sur Paris et qui va venir sur le plateau Tech & Co. et qui répondra à toutes mes questions. Évidemment, on parlera de la stratégie santé d'Apple, de cette compatibilité d'Apple Watch avec Android. On aura plein de questions à lui poser. Notez-le d'ores et déjà le 18 avril prochain, ici même sur ce plateau. On revient en France et là, rendons hommage quand même à l'une de nos innovations, on va dire, qui a transpiré au-delà de nos frontières et au-delà de notre continent. C'est pas le Minitel, hein, vous l'avez compris, parce que lui,
on
s'est
essayé.
Arrêté.
On a essayé.
On a essayé, mais il n'est pas allé bien loin. Hein.
Nope.
Il s'est un peu noyé au large de la Bretagne. Mais en revanche, la carte à puce, elle a cartonné. Il faut savoir que cette carte à puce a 50 ans. Elle a été inventée, je le disais donc, par un Français. Elle a d'abord été déployée en France et puis elle a conquis petit à petit le monde entier par de nombreux usages et particulièrement les paiements. Petit reportage d'Alexandra Pagé pour nous remettre un petit peu dans l'ambiance.
Inventée par Roland Moreno, un ingénieur, mise au défi par son banquier d'élaborer une carte à mémoire électronique, la carte bancaire ou CB est une histoire industrielle française de A à Z. Schlumberger, Bull, Oberthur, Dassault se sont penchés sur son verso et Lydia, pionnière du virement dématérialisé par téléphone qui joue sur ses plates-bandes, est aussi une licorne tricolore. Mais tous les systèmes cohabiteront, prédit Philippe Lolani, directeur général de carte bancaire.
L'histoire va continuer, l'instant de paiement, le digital va s'installer, mais par les paiements mobiles ou pour les paiements d'objets intelligents, la carte incluse dedans vivra très bien.
Aujourd'hui, 20% des paiements par carte en Europe sont opérés par CB et la carte bancaire a encore de beaux jours devant elle, notamment grâce à une nouvelle rupture technologique.
Il y a une rupture qui va arriver, qui est le quantique, qui va remettre en cause dans les années futures tout l'ensemble des éléments sécuritaires depuis 50 ans, ce qu'on appelle la cryptographie, les clés de sécurité, qui peuvent aussi donner des nouveaux services de paiement aux consommateurs.
En France, en 2023, on comptait plus de 84 millions de cartes bancaires pour environ 68 millions d'habitants, soit 1,2 carte par personne.
Voilà, Roland Moreno qui nous a coûté, qui nous a quitté il y a une douzaine d'années déjà, et qui a fait sa fortune sur cette carte à puce.
Ah mais c'est énorme.
Qui a été développée dans plein d'usages. Bien sûr, on évoquait la carte bancaire, mais rappelez-vous les cartes téléphoniques.
La télécarte.
Les plus vieux d'entre nous.
Les moins de 40-50 ans.
Cartes téléphoniques avec les voilà. Ah,
ça a été le premier
usage. Jeune portable, mais j'ai connu.
Voilà, c'est ça. Il y avait quoi aussi.
Et puis les premières puces sans contact, qui étaient vraiment la nouvelle vague d'innovation. Sa société s'appelait Innovatron, et je me souviens. Il y a 30 ans, 35 ans, il touchait, lui, 1 million de francs de royalties par mois à l'époque, dont il n'avait pas grand-chose à faire, parce que lui, il écoutait du jazz, il bricolait des trucs, il adorait son Macintosh.
Tu l'avais rencontré plusieurs fois.
Plusieurs fois,
on était Moreno. C'était un sacré personnage, quand même.
Ah, bah, c'était, il faut relire ses bouquins, La théorie du bordel ambiant, c'est merveilleux. Et c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres personnalités, dans des Raphaël Adjian, par exemple.
Oui.
Et il avait des bureaux en plein centre de Paris, à côté de la place Saint-Michel, devant la place Saint-André-des-Arts. Et alors, pour la petite histoire, évidemment, il a fait une fortune extraordinaire avec les cartes SIM de nos téléphones mobiles. Lui-même n'avait pas de téléphone mobile. Enfin, il en avait un dans un tiroir qui lui servait pour les fois où il allait quelque part et où il était forcé de prendre un taxi. Mais ça arrivait, lui disait très rarement, parce que comme il le disait très bien, tout ce qui m'intéresse se trouve à moins de 300 mètres de la place Saint-André-des-Arts.
Et oui, voilà un lieu stratégique. Mm-hmm. Christophe.
Non, on peut se féliciter parce que c'est vraiment une innovation. Parce que parfois, on dit on a inventé l'Internet en France et puis on regarde à l'étranger, dans chaque pays.
Oui, chaque pays dit qu'il a inventé l'Internet.
Là, sur la carte à puce,
il y a consensus.
Smart Card, c'est Roland Moreno qui ressort. Et donc, c'est quand même, on peut être fier de cette innovation et puis de l'impact que ça a sur le monde. Et surtout aussi, ça a permis de créer des très beaux acteurs français. C'était GEM+, puis Gemalto, maintenant Thales. Et puis Oberture, ce sont. Ils sont dans le top 5 des acteurs mondiaux. Donc, je pense que ça a aussi permis de garder une pertinence dans tous les domaines liés à la sécurité, à l'authentification, sur lesquels on a un vrai savoir-faire.
Moreno, qui avait lancé, avant sa mort, une espèce de concours en disant le premier qui arrive à pirater ma carte à puce, je lui donne 1 million de francs.
Ouais.
Et à ce jour, personne n'a réussi à pirater sa carte.
Non. Enfin, bref, ça dépend. Il y a débat. Mais pas les cartes SIM, pas la télécarte. La télécarte, tu sais, c'était en fait un tableau avec des fusibles à l'intérieur, s'il faut schématiser.
Oui, c'est ça.
Donc, tu avais 40 unités, on cramait un fusible à chaque unité. C'était un peu cru en termes de technologie, mais vachement efficace.
Ce qui est intéressant, c'est que cette technologie, donc, a traversé l'Atlantique, est allée un peu partout dans le monde, parce que, évidemment, les banques, au début, elles voulaient pas cette carte SIM, en tout cas, cette carte à puce dans les cartes bancaires, parce que ça coûtait plus cher que les pistes magnétiques. Qui, elle, était là bien avant. Mais c'était moins sécurisé, c'était plus facilement piratable. Et donc, la carte à puce, automatiquement, elle a été adoptée par les banques du monde entier.
Il y a encore plein de restaurants aux États-Unis qui prennent encore leur fer à passer.
C'est un peu fini.
Mais en revanche.
Non, mais à New York, il y en a plein encore.
Pourquoi il y en a de plus en plus qui acceptent les cartes à puce Parce que si toi, tu payes avec ta carte magnétique et que le commerçant n'est pas payé, il n'est plus assuré. Donc, maintenant, pour garantir son paiement, il est un peu obligé de passer par un terminal avec une carte à puce, parce que là, s'il y a un problème de triche ou quoi, il sera quand même payé. Il y a une assurance. C'est quand même assez intéressant de voir que, mine de rien,
Et ça a mis beaucoup de temps aux États-Unis à s'implanter.
Ah oui, il y a une 10 ou 20 ans avec une grande résistance des banques américaines qui disent non, mais toute cette technologie ne nous intéresse pas.
Mais c'est le sans-contact qu'il y a sur les téléphones, il y a encore un peu de Roland Moreno dedans, non?
Dans le NFC, je ne sais pas, il faut les demander à Innovatron. Mais on est sur des technologies qui, en tout cas, en découlent, oui.
Eh bien voilà, on termine ce débrief avec une note un petit peu positive.
Cocorico.
Voilà, Cocorico.
C'est française, bien sûr.
Voilà, 50 ans pour la carte à puce. Et merci beaucoup à tous les trois d'avoir commenté aussi brillamment l'actualité comme à chaque fois, Cédric. Merci d'être là, vieil ami dédié, vous le savez, spécialisé à la tech. Et aujourd'hui, directeur général de Heavyweight Studio. Merci à Hugo Weber aussi.
Merci François.
À bientôt, Hugo.
À bientôt.
Directeur des affaires publiques de Miracle. Et Christophe, on te retrouve très vite, bien sûr.
Bien sûr.
Christophe Follnet, senior advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft Asie du Sud et France.